Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il y a, comment dire, sur Nordal-Lelandais, il y a tout un côté face cachée, en fait, qui peut quelque part intriguer chez ce personnage. Et ce qui peut dérouter, c'est qu'il a une apparence tout à fait normale et qu'on a réellement l'impression qu'il a deux facettes, deux personnalités.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Le 18 février 2022, Nordal-Lelandais a été condamné par la cour d'assises de l'Isère à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre de Maëlys de Arrojo. L'enfant avait disparu en août 2017 au cours d'une soirée de mariage dans l'Isère. Pendant son procès, l'ancien militaire de 39 ans, déjà condamné en mai 2021 pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, a fini par reconnaître avoir volontairement enlevé et tué la petite fille. S'il a reconnu ses penchants pédophiles, il a toujours nié farouchement tout mobile sexuel au sujet de Maëlys. Il a affirmé que sa mort était accidentelle. L'état trop dégradé du corps de la fillette, retrouvé 6 mois après les faits, n'a pas permis d'apporter de réponse à ce sujet. Et il a été impossible, durant le procès, d'y voir plus clair sur ce point essentiel. Thibaut Chevillard, Caroline Girardon sont journalistes à 20 minutes et ils racontent dans cet épisode de Minute Papillon les silences, les mensonges, le revirement spectaculaire de Nordal-Lelandais durant ces 3 semaines de procès. Thibaut Chevillard est journaliste au service police-justice à la rédaction de Paris, Caroline Girardon journaliste à la rédaction de 20 minutes à Lyon. Quand s'ouvre le procès de Nordal-Lelandais le 31 janvier 2022, est-ce que Nordal-Lelandais est un accusé particulier, extraordinaire ?
Alors des criminels de sa trempe, hein, il y en a déjà eu, et il y en aura toujours, hein, évidemment, comme ça on pense à Michel Fourniret, on pense à Marc Dutroux en Belgique, mais ça arrive pas si souvent que ça, c'est-à-dire qu'un procès comme celui qui s'est tenu à Grenoble, il n'y en a pas non plus tous les ans. Les gens qui mentent jusqu'au bout, c'est un peu le propre d'un procès, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à un accusé de mentir pour se défendre. On n'est pas aux États-Unis où le parjure est interdit et peut même être sanctionné. Enfin, en France, on a le droit de mentir pour se défendre. Ce qui est particulier chez Nordal-Lelandais, c'est qu'on a l'impression que ça va au-delà d'une stratégie de défense. On a l'impression que finalement le mensonge est ancré en lui. Pour lui, mentir, c'est une question de survie, c'est éviter de se retrouver en prison, mais aussi éviter de s'effondrer, de s'avouer la vérité, de comprendre que oui, c'est un criminel qui a peut-être même abusé sexuellement de cette fillette, en tout cas il a abusé sexuellement de 2 petites cousines. Je crois que c'est ça qui en fait un accusé un peu particulier.
Le corps de Maëlys a été découvert en février 2018. Et depuis 4 ans, en fait, Nordal-Lelandais varie dans ses déclarations. Et on sait qu'il ne dit la vérité qu'une fois qu'il est acculé, qu'une fois qu'il n'a plus de porte de sortie. C'est-à-dire que tant qu'on ne lui présente pas la preuve irréfutable, Nordal-Lelandais ment, Nordal-Lelandais varie dans ses déclarations. Donc, ce qu'il a fait au procès, c'est ce qu'il fait déjà depuis 4 ans. Il dit « c'est ma vérité, même si vous ne voulez pas l'entendre ». Donc, quand moi j'ai abordé le procès Maëlys, la question qui était vraiment sous-jacente concernant le meurtre de Maëlys, c'était l'intention sexuelle. Il a toujours nié. Le fait de le nier, ça lui permettait d'éviter la perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans et non pas de 22 ans comme il a eu. Donc, il avait tout intérêt à nier le motif sexuel. Mais j'attendais qu'il explique comment Maëlys, en 1 minute, elle a disparu du mariage et elle s'est retrouvée dans sa voiture.
Au 10e jour de son procès, le vendredi 11 février, Nordal-Lelandais admet avoir finalement enlevé et volontairement tué Maëlys. Jusqu'alors, il a nié catégoriquement avoir voulu lui donner la mort. Coup de théâtre pour Thibaut Chevillard qui suit cette semaine le procès.
Il nous a désarçonné car la présidente l'a interrogé sur les faits. Tout au long de l'après-midi, il n'a fait que répéter ce qu'il a toujours dit tout au long de l'instruction, ou du moins tout ce qu'il a toujours raconté à partir du moment où la petite Maëlys a été découverte dans la montagne. À savoir qu'elle est montée volontairement dans sa voiture, qu'il l'a tapée après avoir eu une hallucination et après avoir vu ce militaire qu'il avait tué quelques mois plus tôt. On sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc la journée s'est passée comme elle devait se passer, on ne s'attendait à rien d'autre de sa part. Et comme beaucoup de journalistes parisiens, je suis rentré en prenant le dernier train le vendredi soir, alors que l'audience était sur le point de se terminer. Nordal Hollandais était interrogé par les avocats des parties civiles, il continuait de nier avoir enlevé volontairement cette fillette, il continuait de nier avoir tué volontairement cette fillette. Soudain, je reçois un message de la rédaction à Paris qui me demande si j'ai vu la dépêche AFP qui venait d'être publiée. Sur le coup, je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit. Et on me dit, Nordal Hollandais est passé aux aveux. On avait un groupe WhatsApp avec d'autres journalistes présents sur place, qui étaient encore d'ailleurs dans la salle d'audience. Et on commence à nous dire que oui, il a avoué les faits, mais sans les avouer. La situation était assez troublante. Je pense que j'étais un peu livide parce que quand vous êtes journaliste et que vous couvrez un procès, évidemment, vous voulez être là pour les grands moments du procès. Et là, on est tous partis en se disant, il ne se passera plus rien. On a des horaires de bouclage, on doit envoyer un papier assez tôt, enfin, ou pas trop tard du moins, pour qu'il puisse être dans le journal du lendemain. Donc, ça nous arrive tous de finir un papier avant la fin de l'audience. Hein. Voilà, ça n'a rien de nouveau. Mais là, les aveux du vendredi soir, 20h15, en fin d'audience, on ne s'y attendait pas du tout. Et surtout, on ne comprenait pas exactement ce qu'il avait à avouer. Il a simplement répondu à son avocat que oui, effectivement, il avait tué volontairement Maëlys, c'est que oui, il l'avait enlevé. Ce qui était d'autant plus frustrant, c'est que la présidente n'a pas décidé de continuer son interrogatoire, c'est-à-dire de lui demander de préciser en quoi, lorsqu'il a dit « oui, j'ai enlevé volontairement cette fillette ».
Jusqu'à présent, il avait effectivement jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il avait toujours cherché à les minimiser. Il faut savoir que ça arrive après un long après-midi d'interrogatoire, je crois que 5 ou 6 heures d'interrogatoire, ça arrive à la toute fin, effectivement, quand son avocat lui dit « Nordal, est-ce que tu as conscience que faire monter une petite fille dans ta voiture à 3 heures du matin, c'est un enlèvement ?» Et là, il répond « oui ». « Est-ce que tu as conscience qu'on ne peut pas parler de mort involontaire ?» Il répond « oui ». Et à la fin, il finit par dire « je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés ». C'est une surprise, plus personne l'attend, surtout pendant 5 heures, il dit rien. Il lâche rien. Donc là, voilà, c'est 20h15. J'ai vu l'alerte AFP comme tout le monde. Et là, j'ai bondi de ma chaise en me disant, eh mince, je n'y suis pas. Je n'y suis pas pour entendre ça. Mais j'y retourne lundi et j'espère que lundi, il va en dire davantage. Eh bien, lundi, il n'a rien dit de plus, voire il a cherché à rétro-pédaler. C'est-à-dire que lundi matin, tout de suite, il a commencé à dire, quand il a été repris par la présidente sur cette déclaration de dernière minute, et tout de suite, il a commencé à dire « Oui, mais Maëlys, elle est montée toute seule dans ma voiture. » Alors là, la présidente, elle a commencé à s'agacer en disant « Attention, monsieur Hollandais, vendredi soir, c'est quand même pas ça que vous avez dit. » Il a commencé un peu à chercher à l'embrouiller en disant « Si, si, mais elle est quand même montée toute seule dans ma voiture. » Donc voilà, la présidente s'est agacée. Et là, il a simplement répondu « Je reconnais tous les faits qui me sont reprochés. » Donc il l'a redit une deuxième fois, mais il n'a rien ajouté de plus. Aucun détail, aucune explication supplémentaire. Je l'ai interprété au départ comme une stratégie de la défense, à savoir lui extirper des aveux comme ça, alors qu'on ne les attend plus, après 5-6 heures d'interrogatoire, une journée très longue, très épuisante pour tout le monde. Après coup, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'était réellement piloté par sa défense. Je ne sais pas si voilà, son avocat, tout simplement, n'a pas lui aussi tenté à son tour de le faire parler, alors que jusqu'à présent, il n'y était pas arrivé. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, avec le recul, si c'était réellement une stratégie de la défense ou pas.
Qu'est-ce qui interpelle en Nordal Hollandais ?
Il y a quelque chose d'à part, en fait, parce que Nordal Hollandais, quand on le voit au premier abord, comme ça, quand on l'entend s'exprimer devant la cour, il a rarement perdu ses nerfs. Alors, quand il est titillé, hein, ou quand on se moque un peu de lui, on voit que l'armure, elle commence à craquer et qu'il commence à s'agacer, qu'il commence à s'énerver, à mal parler, etc. Mais ça reste quand même rare. La première surprise que moi, je l'ai eue, quand je l'ai entendu parler la première fois et quand je l'ai vu la première fois, c'est qu'il a vraiment l'attitude déjà de monsieur tout le monde. Ce n'est pas un rustre, ce n'est pas l'idiot du village. Et c'est quelqu'un qui parle relativement bien. Alors, je ne dis pas qu'il a un langage soutenu, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'exprime avec facilité. Il y a déjà ce côté qui surprend, parce que des fois, on a pu voir des tueurs d'enfants comme ça à un procès qui n'avaient pas du tout la même attitude et qui étaient beaucoup plus sur la défensive. Lui, il est très dans la maîtrise. Donc ça, déjà, ça interpelle au premier abord parce qu'il y a un décalage entre l'image qu'il présente et les actes qui lui sont reprochés. Ce qui peut être d'autant plus glaçant après, parce que quand on sait ce qu'il a fait et quand on voit la maîtrise qu'il affiche devant la cour, ça interpelle. Ce qui interpelle aussi pendant le procès, c'est la multitude de témoignages qu'il y a eu de ses amis. Ses amis décrivaient quand même un gars tout à fait normal, le bon pote de soirée, le protecteur, celui qu'on appelle à 2h du matin parce que la voiture, elle tombe en panne et lui, il va venir vous chercher, en fait, il va venir vous rendre service. C'est ça aussi qui interpelle, c'est qu'il a été présenté à tort dans les médias comme un tueur en série. On sait aujourd'hui pertinemment que ce n'est pas un tueur en série, qu'on s'oriente plutôt sur un profil d'un pauvre type, en fait, qui a tout raté dans sa vie. C'est un gars qui s'est retrouvé chez ses parents, vers la vingtaine, la trentaine, à rien faire, sans boulot, mater du porno toute la journée, prendre beaucoup de drogue de plus en plus avec les années, à enchaîner les relations sexuelles. Donc, en fait, lui-même résumait bien sa journée. Hein. Le matin, il disait café, club, cocaïne, porno. Il y a, comment dire, sur Nordal-Lelandais, il y a tout un côté face cachée, en fait, qui peut quelque part fasciner et intriguer chez ce personnage. Et ce qui peut dérouter, c'est qu'il a une apparence tout à fait normale et qu'on a réellement l'impression qu'il a deux facettes de personnalité. Le gars sympa, et puis ce tueur de sang-froid, cet être finalement qui n'a aucune empathie pour les autres, qui est capable, après un meurtre, d'avoir une vie tout à fait normale, c'est-à-dire d'avoir une relation sexuelle, de regarder à nouveau du porno quelques heures après seulement avoir tué une petite fille, qui est capable, après avoir tué un homme, d'aller en boîte de nuit le soir avec ses copains comme si de rien n'était, de payer une tournée et de se mettre de la cocaïne dans le nez, danser toute la soirée. C'est ça, je pense qu'il y a ce côté assez effarant que moi, en tout cas, je n'ai pas vu chez d'autres personnes dans d'autres procès aux assises.
Quelle place pour le mensonge dans la personnalité de Nordal-Lelandais ?
Ce que je n'avais pas compris au procès Arthur Noyer l'année dernière et ce que j'ai compris à ce procès, c'est que probablement on ne saura jamais la vérité concernant Maëlys parce que les psychiatres qui sont venus témoigner lors de la troisième semaine du procès ont été formels là-dessus. Nordal-Lelandais a été qualifié de psychopathe. Un psychopathe, ça ne change pas. Et un psychopathe, ça n'a pas d'empathie et n'aura jamais d'empathie. Et Nordal-Lelandais, aujourd'hui, s'est construit dans une vérité qui est la sienne, dont il ne veut pas sortir parce que psychologiquement, ce serait trop dur pour lui, en fait, de se regarder dans un miroir et d'accepter ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à lui arracher la vérité, parce que pour lui, il est persuadé lui-même de ce qu'il dit. Admettre la vérité chez une personne comme Nordal-Lelandais, c'est le travail d'une vie. En plus, on n'est pas sûr d'y parvenir. La seule fois où il a dit la vérité, c'est quand on a retrouvé la trace de sang de Maëlys dans le coffre de la voiture. Et que là, on lui a mis cette preuve irréfutable, il a été obligé d'avouer, il a été obligé d'emmener les enquêteurs sur les lieux où il avait enterré Maëlys. Ben, ce jour-là, en fait, il s'est effondré psychiquement et il est allé dans une unité psychiatrique. Il a été interné pendant plusieurs semaines. Et les psychiatres nous ont dit, c'est bien la seule fois où il n'a pas simulé, en fait. Donc, les psychiatres nous ont bien expliqué que le fait de s'arranger avec cette vérité, ça évite qu'il s'effondre à nouveau psychiquement. Parce que s'il s'effondre psychiquement, ben, effectivement, ça peut être le suicide, ça peut être quelque chose comme ça derrière.
Merci à Thibaut Chevillard et Caroline Girardon pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. Vous pouvez aussi nous évaluer sur votre plateforme de podcast préférée. Pour nous écrire, une seule adresse, audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. À bientôt.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.